Il est 12h30 sur France Culture. C'est l'heure des informations avec Ludovic Piétenu. Bonjour Ludovic.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Les armes se sont tues, ou presque, dans la deuxième plus grande ville de Syrie, à Alep, depuis minuit. Les diplomates ont arraché 2 jours de ce qu'ils ont appelé un régime de calme, l'expression en dit long sur la précarité de tout ça. Une autre trêve, fragile aussi, dure elle depuis 2 ans entre Israël et le Hamas, mais on peut ce midi exprimer des craintes après les tirs répétés de roquettes sur les forces israéliennes et en représailles ces bombardements de l'aviation sur la bande de Gaza cette nuit. Nous appellerons Étienne Menin, notre correspondant à Jérusalem. En France, l'examen de la loi travail en pause avec un parlement en pont de l'ascension. Il ne restera donc plus que 4 jours de débat la semaine prochaine, mais on va le prolonger ici avec notre invité, le sociologue Nicolas Jounin. Sur le fond d'abord, quand une pétition paraît aujourd'hui en forme de contre-proposition, 150 personnalités demandent une réduction du temps de travail, c'est-à-dire dans le mensuel Alternative Économique. Et puis on parlera aussi avec Nicolas Jounin des violences policières. Notre invité a été arrêté jeudi dernier, en marge des manifestations. La répression vise, selon lui, à faire peur et empêcher un débat large et serein sur cette loi El Khomri. Le comble, c'est que les policiers, eux aussi, en ont assez. Leur syndicat dénonce un climat anti-flic. Ils annoncent une manifestation le 18 mai. Et puis, contre cette loi travail, ils se battaient. On l'a appris en fin de matinée, le décès de Ciné. 87 ans, dessinateur, caricaturiste, grande gueule. Avec Antoine Marette, à la fin de cette édition, nous lui dirons un dernier banzai. Dans la dernière partie, Caroline.
Nous continuons cette émission spéciale consacrée à Léon Blum, après le Léon Blum intime. Qu'incarne Léon Blum aujourd'hui, mais cette fois-ci en politique, nous recevrons 2 invités pour un dialogue croisé. Pierre Birnbaum, qui est professeur émérite de sociologie politique et qui publie Léon Blum, un portrait. Et Alain Bergougnou, qui est historien et qui publie Léon Blum, le socialisme et la République.
C'est à Alep que nous commençons cette édition, dans la deuxième plus grande ville de Syrie, avec, on ne sait comment l'appeler, ce cessez-le-feu, cette trêve en vigueur depuis minuit cette nuit, négociée âprement pour 2 jours par Américains et Russes. Les diplomates appellent cela un régime de calme. Cela semble donc tenir depuis 12 heures. En direct avec nous depuis Beyrouth, notre correspondante Laure Stéphane. Bonjour Laure.
Bonjour.
À quoi ce régime de calme ressemble-t-il ?
Alors, des deux côtés de la ligne de front, il semble qu'il y ait un retour à une forme de vie quotidienne avec la réouverture de magasins, des rues plus fréquentées. Les violences des derniers jours avaient en effet transformé Alep en désert, les habitants restant dans leur maison pour tenter de se protéger. Il faut rappeler que la ville est coupée en deux depuis maintenant presque 4 ans, entre l'ouest, contrôlé par l'armée, et l'est, tenu par la rébellion. Mais ce régime de calme est toutefois émaillé par la persistance de violences. Des militants de l'opposition basés dans l'est d'Alep affirment ainsi qu'un des quartiers rebelles a été l'objet de tirs de snipers kurdes postés dans un faubourg voisin. Ils rapportent aussi de multiples survols de leur zone la nuit passée par l'aviation des forces pro-régime. Et dans la partie contrôlée par l'armée, un habitant partisan déclaré du régime affirme que des obus se sont abattus dans la nuit sur l'ouest d'Alep. C'est aussi ce que rapportent les médias d'État. L'accalmie devrait en tout cas faciliter le travail des humanitaires. Certains avaient dû suspendre leur action au cours des derniers jours. Côté ouest, des cuisines collectives avaient fermé. Elles sont pourtant cruciales pour une population appauvrie. Côté est, des médicaments n'avaient plus pu être acheminés. Reste à savoir combien de temps cette mini-trêve va durer et si elle va être prolongée après la nuit de vendredi à samedi. Il s'agit en effet d'une accalmie de 48 heures. Il faut signaler aussi que si Alep reprend son souffle, des bombardements du régime se poursuivent aux alentours, selon des militants de l'opposition, à l'ouest et au sud de l'ancienne capitale économique.
Laure Stéphane, en direct de Beyrouth, signalons que dans le centre de la Syrie, 10 civils sont morts ce matin dans un double attentat.
On peut avoir des craintes, Ludovic, pour une autre trêve, celle en vigueur depuis 2 ans entre Israël et le Hamas.
Oui, dans la bande de Gaza, des tirs répétés de roquettes contre les forces israéliennes qui ripostent en bombardant cette nuit l'enclave palestinienne. Une famille a été blessée, les autres cibles n'étaient que des installations du djihad islamique palestinien. Étienne Menin, bonjour.
Bonjour.
En direct de Jérusalem, ce sont, Étienne, les incidents parmi les plus sérieux depuis la fin de la guerre il y a 2 ans.
Oui, parce qu'on est sorti du scénario habituel, quasiment rituel installé depuis la fin de l'été 2014. Sur cette période, il y a eu des tirs de roquettes, des moments de tension, mais des tirs en aveugle attribués à des groupes salafistes avec une portée plus déclaratoire que destructrice, sans conséquence côté israélien. Ce qui s'est passé hier se rapproche plus de la confrontation. Il s'agit de tirs répétés de mortiers, plus de 5 d'après l'armée israélienne, ciblés contre des forces militaire en opération, attribué cette fois au Hamas par l'armée et par plusieurs observateurs. Ces tirs arrivent dans un nouveau contexte sécuritaire autour de Gaza. Depuis janvier dernier, les Israéliens ont intensifié leur recherche de tunnels offensifs. Ces tunnels sont devenus un élément central pour les forces en conflit. Côté israélien, ils ont justifié l'opération bordure protectrice. Côté Hamas, ils sont devenus l'arme la plus redoutée, vu l'efficacité aujourd'hui du dôme de fer contre les tirs de roquettes. 160 millions de dollars auraient été investis par les Israéliens pour cette recherche de tunnels. Il y a un peu plus de 15 jours, l'armée israélienne a obtenu un succès. Elle a fait savoir qu'elle avait découvert un de ces tunnels qui avait atteint le territoire israélien. Et tout à l'heure, elle a annoncé une nouvelle découverte qui pourrait expliquer cette montée de fièvre. C'est donc cette guerre des tunnels offensifs qui sert de toile de fond. La branche armée du Hamas accuse Israël d'être entré dans la bande de Gaza pour ses recherches, ce que dément l'armée israélienne. L'Égypte, aujourd'hui, ce matin, fait un travail de médiation pour tenter de restaurer le calme. Aucun des deux camps n'a intérêt à une reprise des hostilités, mais dans ce contexte, la trêve est fragilisée.
Merci Étienne Menin. Vous avez recueilli pour nous ce matin un son dans les rues de Jérusalem. Ce sont 2 minutes traditionnellement de recueillement qu'ont respecté ce matin les Israéliens. Il était 9h, heure de Paris, en mémoire de toutes les victimes de l'Holocauste. Et c'est en pleurs que Corinne, une franco-israélienne qui habite Jérusalem depuis 9 ans, répond au commencement, au début du son à Étienne Menin, en formant ce vœu du plus jamais ça. Puis elle sèche ses larmes et poursuit son propos.
Personnellement, je le vis dans le sens de la souffrance et de la douleur. Et pour que ça ne recommence pas, c'est tout. Parce qu'on est libre sur notre terre et malgré ce, on est victime encore de cette violence sauvage et inadmissible. Et voilà, moi je crois que c'est ça le sens de cette commémoration. En tout cas, c'est comme ça que je le vis.
On attend également une marche de plus de 8000 jeunes juifs d'une quarantaine de pays. Ce sera en Pologne à Auschwitz. On peut aussi évoquer et commenter cette déclaration du Premier ministre israélien avec vous, Pierre Birnbaum. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec Alain Bergougnou, l'un des deux invités de la deuxième partie de la Grande Table. Comme c'était le cas avant ce journal, on continuera de parler de Léon Blum, dont vous évoquez la judéité, Pierre Birnbaum, dans votre biographie. L'antisémitisme n'a pas disparu, disait hier le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. C'était au mémorial de Yad Vashem. La propagande dans le monde occidental contre Israël est un poison, disait-il encore. L'État des Juifs est aujourd'hui l'ennemi de l'humanité. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Vous pensez qu'il va trop loin dans ses déclarations ?
Il y a un problème de proportion, c'est-à-dire qu'il est parfaitement légitime de critiquer la politique annexionniste, nationaliste de Netanyahou. Elle s'éloigne bien évidemment des grandes valeurs des fondateurs d'Israël, du sionisme socialiste, celle de Ben-Gurion. Il y a une transformation de la société qui renvoie à un mouvement généralisé dans le monde de montée des populismes et des nationalismes. De là à constater cette violence systématique, cette remise en question de la légitimité de l'État, c'est le seul État dont l'existence est remise en question au monde. Il y a 300 000 morts en Syrie. Personne ne remet en question l'existence de l'État syrien, et on pourrait étendre cela au monde entier ou presque. C'est le seul État qui soit remis en question en permanence, et les dérapages anti-israélianisme, antisémitisme qui se produisent actuellement en Angleterre sont très préoccupants, puisqu'ils touchent aux élites même du Labour Party, et c'est là quelque chose d'assez dramatique.
C'est un débat effectivement qui a touché les travaillistes. On va en parler un peu plus indirectement. Merci Pierre.
Oui, puisque de l'autre côté de la Manche, on vote. Il faut constituer les parlements régionaux et renouveler 124 conseils municipaux en Angleterre.
Alors évidemment, un scrutin chez nos amis londoniens où la bataille oppose à un fils de chauffeur de bus pakistanais travailliste à un fils de milliardaire conservateur. Scrutin également chez les Écossais, les Gallois, les Irlandais du Nord. À Londres, notre correspondant Franck Madvon. Bonjour Franck.
Bonjour Ludovic.
C'est le premier test électoral de Corbyn depuis son élection chez ses travaillistes.
Oui, et la journée s'annonce délicate pour le Labour, même si son candidat à Londres, Sadiq Khan, est favori pour l'emporter. Alors, gros plan sur l'Angleterre d'abord, qui choisit aujourd'hui 2700 élus locaux. Jeremy Corbyn a affirmé mardi que son parti ne perdrait pas de siège. Or, d'après les sondages, 150 à 200 élus travaillistes pourraient ne pas être reconduits. En 2012, pour rappel, le Labour d'Ed Miliband avait remporté 800 sièges. Le pire pour le Labour pourrait survenir en Écosse, où il a longtemps été le parti dominant. Cette fois, on s'attend à nouveau raz-de-marée des indépendantistes au régional et à une possible troisième place des travaillistes derrière les conservateurs, ce qui serait bien sûr une défaite majeure pour Jeremy Corbyn. Le parti a pourtant pris un virage à gauche sous son impulsion. Son programme anti-austérité rivalise sur le papier avec les indépendantistes du SNP, mais les électeurs écossais semblent se détourner du Labour. En tout cas, si les sondages ont vu juste, les Tories de David Cameron pourraient s'en sortir honorablement, ce qui est plutôt inhabituel lors d'élections intermédiaires. Généralement, vous le savez, ces scrutins sanctionnent le parti au pouvoir, mais David Cameron ne peut pas se permettre une défaite électorale à 7 semaines du référendum sur l'UE, crucial pour sa carrière de Premier ministre.
Franck Madvon en direct de Londres. En Turquie, de l'eau dans le gaz entre le président Erdogan et son Premier ministre, des rumeurs de démission de ce dernier. Ahmet Davutoglu, par ailleurs chef du parti majoritaire AKP, dont le congrès vient d'être annoncé ce matin pour le 22 mai, congrès exceptionnel, tout concorde. Davutoglu est sur la sellette comme chef du gouvernement et comme leader de ce parti. Pour devenir étudiant en médecine en région parisienne, en Île-de-France, il faudra désormais aussi avoir de la chance en plus d'être excellent. Le rectorat d'Île-de-France a annoncé hier qu'il fixerait une capacité d'accueil limitée pour toutes les facs de médecine. Seuls 7500 étudiants seront admis, alors qu'ils étaient plus de 8143 précisément l'an passé. Le but, mieux répartir les futurs médecins dans toute la France, les encourager à postuler dans les régions, dans ces déserts médicaux. Je vous propose d'écouter Rémi Patrice, il est président de l'Association nationale des étudiants en médecine de France. Il est lui-même étudiant en quatrième année à Nice, à la faculté de médecine. Il réagit au micro de Roman Frachon.
Nous trouvons cette mesure bien évidemment inacceptable et inadmissible. Le hasard n'a pas sa place dans le choix de vie et dans la vie future d'un étudiant en France, et encore plus dans une année comme la PACES, qui est déjà très difficile et très sélective, qui demande une motivation énorme. C'est pour nous aberrant d'avoir des étudiants qui ne peuvent même pas accéder justement à cette année difficile et à cette course à la réussite de la première année, et qui soient avancés par simple hasard. Mais il pose vraiment le problème de l'inégalité et de l'injustice. Le défaut d'information a été majeur. Les étudiants ne s'y attendaient pas non plus, et ils ont découvert ça en choisissant sur admission post-bac leur filière pour l'université après leur lycée. Comme ça, sans en avoir été informé au préalable. Le problème réel est qu'ils mettent Amiens, par exemple. Le nombre de places à Amiens sera très limité. Ils se retrouveront face exactement au même souci, puisqu'en fait, le nombre d'étudiants hors académique, ce qu'on appelle, donc qui ne sont pas issus directement d'un bac obtenu dans l'académie, sont très très restreints, puisque les ATFAC, en fait, se confrontent au même problème.
Des étudiants qui demandent le retrait de cette mesure, qui demandent des négociations avec le rectorat francilien dès cet après-midi, et qui menacent de rassemblement si cela n'aboutit pas. À 5 jours du procès, un procès d'envergure, le deuxième seulement organisé par la justice française, un procès de 2 Rwandais génocidaires présumés, réfugiés en France. Ce sera dans la cour d'assises de Paris à partir de mardi prochain et pour 8 semaines. Aurélia Devos jette l'éponge. Elle est la procureure du pôle génocide et crimes contre l'humanité. Elle devait tenir aux côtés de Philippe Courroy le rôle d'avocat général. Pourquoi jette-t-elle l'éponge à quelques jours de l'audience? Selon Libération ce matin, elle invoque la clause de conscience, un fait rarissime lors de Vulpian.
Elle ne voulait pas faire de publicité trop tard. Aurélia Devos, procureure au TGI de Paris, est donc déchargée de son rôle d'avocat général dans ce procès plutôt exposé. Elle sera remplacée par un substitut qui découvre le dossier quasiment au dernier moment. Selon Libération, la magistrate aurait invoqué la clause de conscience. Clause qui existe explicitement chez les médecins et les journalistes, mais pas chez les magistrats, si ce n'est qu'en dépit de leur devoir d'obéissance, on ne peut pas les obliger à siéger s'ils s'y refusent. Hier, le parquet général indiquait, sans plus de précision, qu'Aurélia Devos avait fait valoir, je cite, « des raisons personnelles et professionnelles pour se déporter, comme on dit ». Un cas unique ou presque, rarissime en tout cas. Un acte courageux qui n'a certainement pas été décidé à la légère. Alors que dire, que lire entre les lignes, que la magistrate, considérée comme une excellente professionnelle, avance implicitement des raisons d'impartialité. C'est vrai que Philippe Courroy a pour avocat Jean-Yves Dupeu, qui a défendu le journaliste Pierre Péan à l'occasion de la publication d'un livre qualifié de révisionniste par l'association Ibuka, qui représente en France les rescapés du génocide, un avocat dont le cabinet s'est fait une quasi-spécialité de défendre des Rwandais soupçonnés de génocide. Par exemple, l'abbé Venceslas Munyeshyaka, qui vient de bénéficier d'un non-lieu après 21 ans de procédure, faute de preuves suffisantes. Notons quand même que cette péripétie est qualifiée d'inquiétante par les parties civiles. Alain Gauthier, le président du CPCR, le collectif des parties civiles pour le Rwanda, assure qu'il sera très vigilant face à une éventuelle collusion entre la défense et l'accusation.
Laure de Vulpian. Bonjour Nicolas Joulin.
Bonjour.
Vous êtes l'invité de ce journal de 12h30. Vous êtes sociologue renommé et soumis depuis quelques jours à un contrôle judiciaire tous les 15 jours parce que vous avez été arrêté. C'était jeudi dernier en marge des manifestations contre la loi travail. Et vous avez vécu, comme d'autres le dénoncent d'ailleurs ces jours-ci énormément, ces violences policières. Vous pouvez témoigner, vous, des conditions de votre arrestation ?
Oui, d'ailleurs, c'était pas en marge, hein. Ça faisait pleinement partie de la mobilisation contre la loi travail. Il y avait une première manifestation qui se tenait à Saint-Denis et les mêmes manifestants devaient rejoindre la manifestation de l'après-midi à Paris. Ça a consisté, cette manifestation, on a un blocage temporaire du port de Gennevilliers, ce qui est assez courant dans les mouvements sociaux, ce qui s'est fait avec les routiers l'année dernière ou en 1992, par exemple. Et donc, cette manifestation a été confrontée à un dispositif de répression policière. Et donc, moi, dans ce cadre, j'ai été mis à terre, battu, interpellé et accusé de violence contre policiers.
Vous vous dites, c'est pour échapper au débat. Cette répression policière n'a qu'un objectif. Elle est organisée d'abord, vous dénoncez cela, et vous dites c'est pour échapper à un débat large et serein sur cette loi El Khomri, actuellement en débat au Parlement. Je disais dans les titres que nous étions dans une pause en raison du pont de l'Ascension.
Oui, il y a clairement une stratégie de la tension qui est avec des violences policières orchestrées, concertées. Les spécialistes des manifestations, des mobilisations, comme le sociologue Olivier Filleul qui s'exprimait dans Le Monde, expriment bien le fait qu'il y a un pourrissement recherché. Alors pourquoi il est recherché? Là, on peut faire que des interprétations, on n'est pas dans la tête de Cazeneuve ou de Hollande, mais probablement pour empêcher qu'il y ait un débat large, serein, ouvert sur cette loi qui est contestée par beaucoup de gens et beaucoup de gens qui théoriquement appartenaient au camp social du gouvernement en place.
Alors ces violences policières étaient dénoncées hier encore par des porte-paroles étudiants, lycéens et du mouvement Nuit Debout contre l'usage récurrent notamment de ces grenades de désencerclement, de ces flashballs, de ces lanceurs de balles de défense. Je vous propose quand même d'écouter Jean-Claude Delage, le secrétaire général du syndicat de police Alliance, parce que plusieurs syndicats de policiers, UNSA Police également, Synergie Officiers, ont l'intention d'organiser dans une quinzaine de jours, ce sera le 18 mai, une manifestation pour eux aussi exprimer leur ras-le-bol contre ce climat anti-flic, comme ils disent.
Nous recevons des instructions. Ces instructions, elles sont en règle générale, adapté aux situations. L'utilisation d'armes de protection ou de défense, qui sont, je le rappelle, les armes non létales. Donc avant, on nous disait qu'on était armé, qu'il fallait plus être armé. Maintenant, nous avons des armes non létales, il faut plus s'en servir. Donc, je vous l'avais bien vu, on n'a pas affaire à des enfants de cœur, on a affaire à des voyous, des extrémistes déterminés, qui n'hésitent pas à s'en prendre, y compris à la population de ces quartiers dans lesquels ils se trouvent. Donc, nous adaptons nos interventions et nos moyens d'intervention à la situation. Donc, aujourd'hui, laissez croire que les policiers se lèvent le matin pour aller taper sur des jeunes, qu'ils se lèvent le matin pour que le sol soit maculé de sang. Vous imaginez bien que la police républicaine française et les policiers qui soutiennent Alliance Police Nationale sont choqués, sont meurtris et que nous trouvons ça inacceptable. Donc il y a une violence plus forte, plus prégnante, mais il n'y a pas de la part des forces de l'ordre un désir de violence.
Le secrétaire général du syndicat de police Alliance, Jean-Claude Delage, il était ce matin chez Fabienne Sintès, nos confrères de France Info. Ce climat que vous dénoncez, Nicolas Jounin, vous êtes sociologue, vous pensez, si on va maintenant sur ce fond du dossier et qu'on écarte un petit peu ce climat de violence policière sur le fond du dossier, parce que vous êtes sociologue du travail, vous connaissez bien ce texte El Khomri, c'est quoi précisément qui vous gêne, pardon, dans ce texte?
Il y a tout un tas.
J'avais noté une régression sociale, vous dites, grignotage par grignotage.
Oui, alors il y a tout un tas de mesures qui sont tout à fait contestables. Je pense par exemple à la baisse de la rémunération des heures complémentaires pour les temps partiels, alors que les temps partiels sont déjà subis par beaucoup de salariés. Mais le cœur de cette loi, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est une remise en cause de l'ordre public social. On nous parle beaucoup d'ordre public par ailleurs, mais l'ordre public social, qu'est-ce que c'est? C'est le fait qu'il y a un certain nombre de droits minimums, comme le SMIC par exemple, comme la durée du travail, auquel on peut pas déroger. Et c'est le principe de faveur. Le principe de faveur, c'est quoi? C'est le fait que entre la loi, entre l'accord d'entreprise, entre l'accord de branche et le contrat de travail, c'est toujours la norme la plus favorable au salarié qui doit s'appliquer.
Ce principe de faveur, c'est fini, c'est battu en brèche.
C'est battu en brèche sur un certain nombre de choses. Ça l'était déjà un peu par de lois précédentes de gouvernements de droite, notamment des lois Fillon, mais ça l'est là bien davantage encore par cette loi d'un gouvernement socialiste. Par exemple, sur la durée du travail, il va être possible, par accord d'entreprise dérogatoire, de travailler 12 heures au lieu de 10. Et ça ouvre quoi comme perspective? Ça ouvre une perspective d'entreprises qui vont se faire concurrence entre elles. Je suis même pas sûr que ce soit dans l'intérêt des entreprises ou de toutes les entreprises, parce qu'elles vont se faire concurrence entre elles avec du dumping social sur le dos des salariés. Donc une première va obtenir un accord dérogatoire dans son entreprise, et puis les autres du même secteur vont dire « bah regardez ce qu'ils ont obtenu », vont dire aux salariés « on est obligé de faire la même chose ». Donc c'est un grignotage progressif des droits sociaux.
Travailler moins pour travailler tous et mieux, est-ce que c'est une idée à laquelle vous croyez ?
Oui, tout à fait. Ça fait 30 ans qu'on nous dit qu'on va créer des emplois en revenant sur les droits des travailleurs ou en baissant le coût du travail, notamment à travers des exonérations de charges sociales, ce qui est une réduction du salaire socialisé des travailleurs. On voit en développant des formes d'emplois précaires comme le CDD, comme l'intérim, comme les temps partiels. On voit bien l'effet que ça ne crée pas d'emplois. En revanche, la dernière fois qu'on a massivement créé des emplois, c'était avec passage aux 35 heures, critiquable en termes d'intensification du travail, mais qui du moins avait créé des emplois.
Donc vous auriez pu tout à fait signer cette tribune publiée dans le numéro du mois de mai d'Alternative Économique. C'est ce matin. Elle est signée par plus d'une centaine de députés, d'économistes, d'universitaires, de syndicalistes. Je peux citer rapidement l'ancien Premier ministre Michel Rocard, William Martinet de l'UNEF, Philippe Martinez de la CGT, ou bien Caroline Dehas, l'instigatrice de la pétition contre la loi El Khomri. Comment cela marcherait concrètement, une nouvelle loi Aubry? Réponse avec l'un des signataires, Dominique Plion, économiste et membre d'Attaque.
L'expérience des 35 heures n'est pas aussi négative qu'on l'a souvent dit, en la mesure où elle a créé plus de 2 millions d'emplois, et nous pensons qu'il faut mettre à l'ordre du jour cette question de la réduction du temps de travail. Par exemple, la CGT propose 32 heures. La semaine de 4 jours et celle à laquelle on pense notamment, ça peut être aussi réduire la durée journalière, mais ça peut être aussi dans la vie, la possibilité de prendre des mois pour pouvoir s'occuper de ses enfants, pour pouvoir aussi préparer éventuellement un changement professionnel. Il y a des tas de possibilités à envisager, c'est pas forcément la semaine des 4 jours. La réduction du temps de travail génère des gains de productivité, et donc l'entreprise n'est pas forcément perdante, loin de là, si elle réduit le temps de travail, dans la mesure où c'est compensé en partie par des gains de productivité. Donc maintenir les rémunérations comme objectif me paraît un objectif raisonnable.
Dominique Plion, économiste et membre d'Attaque, au micro de Roman Frachon. Juste un tout petit mot de réaction, Nicolas Joulin. Dans cette tribune, on peut lire le message simple: pour mettre fin au chômage de masse, il faut réduire le temps de travail. Cela réinstaurerait aussi le bien-être professionnel. On n'y est pas déjà aux 35 heures?
C'est à la fois une mais ça fait plus d'un siècle que c'est une perspective de gauche que de réduire le temps de travail, c'est-à-dire le temps où on est subordonné dans son travail. Ça veut pas dire qu'on n'a pas d'activité en dehors. Enfin, si on travaille 30 ou 32 heures par semaine, il y a plein de choses utiles qu'on peut faire pour plein de gens en dehors de ce temps de travail subordonné. Simplement, c'est du travail libre, c'est de l'activité libre.
Il ne comptait pas ses heures, y compris, merci beaucoup hein, Nicolas Joulin d'avoir été l'invité de ce journal, il ne comptait pas ses heures, y compris dans les derniers instants de sa vie. On l'a appris en fin de matinée, c'est la mort de Ciné, dessinateur, caricaturiste. Il avait 87 ans et il planchait encore hier dans sa chambre d'hôpital sur la parution du Ciné mensuel dont il était le directeur de la publication, Antoine Marette.
Effectivement, alors ses sujets de prédilection étaient la religion, le sexe et la politique. Ciné était un anarchiste, ne respectait rien et surtout pas une quelconque autorité. Il était contre beaucoup de choses, anticolonial, anticlérical, anticapitaliste et anti-sioniste, ce qui lui avait valu de nombreuses accusations d'antisémitisme. Au début des années 80, il est même condamné pour des propos antisémites tenus sur la radio libre Carbone 14, mais c'est la crise à Charlie Hebdo avec le directeur de publication de l'époque, Philippe Val, qui a fait le plus de bruit. En 2008, Ciné écrit dans l'hebdomadaire satirique une chronique dans laquelle il ironise prise sur le mariage de l'un des fils de Nicolas Sarkozy avec la fille du fondateur des magasins Darty. Il précise que la jeune femme est juive et que Jean Sarkozy veut se convertir au judaïsme et conclut « il fera du chemin dans la vie ce petit ». La chronique est publiée telle quelle jusqu'à la protestation de l'éditorialiste Claude Askolovitch 6 jours plus tard. Et c'est à ce moment-là seulement que Philippe Val réagit, ciné est licencié. Charlie Hebdo est alors fracturé en deux, les pros et les anti-ciné. Ciné annonce quelques semaines plus tard la sortie de son hebdomadaire Ciné Hebdo qui deviendra Ciné Mensuel. Le dernier numéro est paru hier dans le traditionnel édito de ciné excusé, sans le traditionnel édito de ciné excusé pour raison de santé. Il faut remonter au mois précédent pour retrouver l'ultime coup de griffe de ciné qu'il destinait à l'un de nos confrères de France Culture. Je cite « Quand on pense que Finkielkraut est devenu immortel, on va devoir se farcir ses élucubrations réactionnaires jusqu'à plus soif car l'immortalité c'est plutôt longuée. » Ciné, lui, n'était pas immortel. Il n'hésitait pas à mettre en scène sa maladie en dessin et dans ses textes. J'ajoute que dans ces derniers jours, il avait apporté un fervent soutien au mouvement Nuit Debout.
Antoine Marette, le temps de ce jeudi 5 mai 2016. Encore une belle journée de la clémence sur l'ensemble du pays et des températures encore en hausse cet après-midi jusqu'à 28 degrés localement en Aquitaine. Fin de cette édition réalisée avec Yacine Bouzard. Prochain journal à 18h.